Comment ça se fait que ce... Comment ça se fait que cet homme-là, il a commencé à demander de se faire pardonner à tous les arbres et à ce que tout le monde intercède en sa faveur. Il dit, vas-y, demande-toi directement, fais-toi même la prière. Pourquoi tu vas commencer à prier pour d'autres personnes? Il m'a dit, mais dit, si jamais c'est pas moi qui le fera, dit il a la zakat dans le Pirkei Avot, le premier chapitre, 12e Pirkei Avot, je crois. Il dit, pourquoi tu vas pas demander toi-même les choses, Rabotai? Et Eliezer ben Dourda, il savait une chose. On sait qu'un homme, il a 5 degrés dans sa neshama. Si jamais il faute, normalement on peut atteindre 3 degrés. Si quelqu'un il arrive à fauter avec plus de degrés que ça, sa situation, il arrive à atteindre presque un point de non-retour. Il dit de quoi dépend la pénétration des averot dans les couches profondes de la neshama. Il dit plus quelqu'un il fait une avera avec Hitlarout, avec éveil spirituel, il s'investit, il s'embrase pour faire cette avera. Et plus la avera elle s'incruste et elle s'enracine dans les couches les plus profondes de la neshama. Et la personne, elle ressent une touma beaucoup, beaucoup plus profonde que si elle avait fait une avéra de façon superficielle. Lui, ça dit qu'il avait tellement kiffé dans les relations interdites. Il avait tellement fait de avérote, il avait tellement fauté, il s'était tellement investi dans les choses les plus graves de la vie. Il s'est dit, c'est pas possible, j'ai touché les 5 degrés et les 5 couches de ma neshama, donc moi tout seul, je peux pas m'en sortir. C'est pour ça qu'il a commencé à demander des conseils et de demander de l'aide à tous ceux qui étaient autour de lui. Moi, je peux pas prier pour moi parce que j'ai atteint le point de non-retour. Mais je vous en prie, vous, priez pour moi. Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, Rabotai, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Par les larmes qu'il a versées quand il a vu que personne d'autre que lui ne pouvait l'aider, il a découvert que quand même quelqu'un il aurait fauté au plus haut point et au plus bas point, il pourra toujours revenir vers Akadosh Baruch Hu. Par quel mérite et par quel biais il pourra faire ça? Il faut faire en sorte, comme il dit Rabbi Yonah dans Shari Tshuva, que la harata qu'on a, le regret qu'on a, les remords et la tristesse d'avoir commis ces avérotes, elles soient aussi puissantes que la jouissance qu'on a eue d'accomplir ces avérotes. Ça, c'est quelque chose de très très difficile. Combien quelqu'un il peut réussir à s'attrister autant et à souffrir autant qu'il a kiffé quand il a fait cette avérote? C'est quelque chose de très difficile. Et ça, c'est des choses qui s'atteignent par deux façons. Soit, et c'est pour ça que ce chiour-là, je ne vous ai pas dit ce nom, il s'appelle... Ça s'appelle mourir. Attends, comment ça s'appelle déjà? Je vais me souvenir parce que je l'ai oublié. Ça s'appelle mourir pour la vérité, pour vivre pour l'éternité. J'ai même oublié de vous dire le titre du truc pour vous laisser un peu de suspense jusqu'à la fin. Comme ça, je vous ai dit le truc à la fin. Vous avez dit, jamais bien un jeune barbiché qui vous parle d'Ibissa et qui vous dit le titre du truc à la fin et tout ça. Et ça fait plaisir. Alors, vous voyez, cette chose-là, ça s'appelle mourir pour la vérité. Ici, celui-là, il entre, ce Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, il s'est dit, moi je ne peux pas revenir à la vie. Il y a deux façons de pouvoir se racheter. Soit par les larmes qui montrent combien on regrette les choses qu'on a fait, ça montre la sincérité qu'on a par rapport à Kadosh Baruch Hu devant Hashem Yitbarach, on montre les larmes, on regrette et tout ça. Ça s'appelle Miomek Alev, du plus profond de nous-mêmes, on va chercher à épuiser les énergies qui sont au plus profond de nous-mêmes. Et Rabotai, une chouva qui se fait Miomek Alev d'une profondeur extraordinaire, elle n'a pas du tout la même portée qu'une chouva qui se fait de façon superficielle. Les actions, elles peuvent avoir pas multipliées par deux, elles peuvent être multipliées par un million, en fonction de comment tu mets tes tefilines, en fonction de comment tu t'habilles, de comment tu vas faire en sorte quand tu vas sortir de la rue. Comme une tzadéquette de la Gemara qui disait, Ribono, j'ai le maître de l'univers, je t'en prie, fais en sorte que je ne sois pas une embûche devant mes frères, que je ne les envoie pas au Geinam. Une femme, quand elle s'habille, généralement, elle regarde la tenue qui pourra faire en sorte qu'elle pourra trouver le plus grâce aux yeux des gens qui sont autour d'elle. La tzadéquette, quand elle s'habille, elle se dit, qu'est-ce qui fera en sorte que je pourrais être le moins une embûche devant les gens qui sont autour de moi? D'ici jamais t'as ta kavana en t'habillant, sache que toi t'es pas une femme qui est tsniout, t'es une femme qui est un million de fois tsniout. Toi quand tu mets tes tefilines et que tu penses, au lieu de faire en sorte de vite sortir pour aller gagner tes milliards à Wall Street et faire tes courses et tout ça, ou de payer ta facture d'EDF et de GDF et des postiers là-bas et de la Mishragaz ou je sais pas comment ça s'appelle ici, le type lui met cette filine et il pense, voilà, Kadosh Baruch Hu, je pense que je vais m'attacher à toi. Je pense que je suis sorti d'Égypte et qu'en vertu de ça, je dois me mettre sous ta responsabilité. Je veux assujettir les pensées de mon cœur et les pensées de mon cerveau. Je veux les assujettir à ta volonté. Je vais m'assujettir à ce que toi tu vas me dire et tout ça. Il dit, je veux faire en sorte de m'attacher à toi, Kadosh Baruch Hu, et il va sentir ça du plus profond de son cœur. Ah, et celui-là, il n'a pas mis les tefilines deux fois, il les a mis un million de fois. Ça veut dire que ça fait un million de fois plus de mitzvot. Il a une passion. Il disait à Ben Nourdaya, il a fauté et la chose elle s'est enracinée au plus profond de lui-même. Mais la harata qu'il a eue, comme elle était du Omek Alev, de la profondeur de son cœur, qu'il a prié du plus profond de son cœur pour qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne, il a réussi à renverser la tendance et à aller sonder les plus grandes profondeurs de son être et à faire sortir toute l'obscurité qui avait été générée, il a fait ressortir en une dose de lumière. La même façon, la joie, la simcha dans la Avodat Hashem, c'est quelque chose qui peut permettre à l'homme de faire en sorte de faire une tshuva extraordinaire. On voit quand les Bnei Israël ils ont eu la destruction du Beth Amikdash, les nations ils sont venus, ils ont commencé à leur dire, les Romains, chantez-nous des chansons comme vous avez coutume de chanter là-bas les Lévim au Beth Amikdash. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Al-Narod Babel, Sham Yashavnu Vegam Bachine Vzochrenu Etzion, Ech Nashir Et Shir Hashem, Al-Admat Nechar Imishkachiech Yerushalayim Titbak Leshoni Titbak Lechiki Imlo Eskechi Imlo Alet Yerushalayim Al-Rosh Simchati. Le Tehilim il dit là-bas que les types, ils leur disaient, chantez-nous des chansons. On leur dit, mais comment je peux chanter la chanson d'Akadosh Baruch Hu, qui est une chanson tellement extraordinaire et tellement élevée, qui a une madriga tellement puissante, alors que je suis sur une terre étrangère qui est dominée par les ennemis et que la maison d'Hachem a été détruite. Ces nations-là, ils savaient que la puissance de la chanson dans la joie, elle avait des répercussions extraordinaires. Et si jamais on l'utilisait à des choses vaines, ça pouvait avoir des destructions incroyables. C'est pour ça qu'ils ont voulu utiliser cette chose-là. Donc on voit que quelqu'un qui fait quelque chose, mais au mec à lèvres, que ce soit par la simcha extraordinaire qu'il a de se tenir vers Hachem, que je vous ai dit qu'on est les plus grands milliardaires du monde, Rabotai. On a été élus et choisis par Hachem Yitbar pour être ses enfants et ses ambassadeurs dans le monde. On est des Bnei Torah, on a le sroud d'entendre des divrei Torah, il y a des pauvres amis à nous, des pauvres frères qu'il faut prier pour à Tel Aviv. Et à Natania, ils sont allongés à même le sol en train de boire des vodkas et des litres de bière et des litres de whisky. Ils sont en train de se piquer avec des seringues. Ils sont en train de se mettre des patchs avec des contaminations de sida. Les types, ils sont tombés à des madrigotes tellement chevelottes, tellement basses. Combien il faut souffrir pour eux. Alors que toi, en contrepartie de ça, quoi, toi, tu as le srout d'étudier la Torah. Quand tu prends conscience de ça, tu dois servir à Kadosh Baruch Hu, Miomek, Alev. Et ta tshuva, elle est proportionnelle à justement cette profondeur avec laquelle tu vas servir à Kadosh Baruch Hu. Comment il a fait Eliezer ben Dodaya pour devenir Rabbi Eliezer ben Dodaya et mourir en allant directement au Gan Eden? Il a sondé les plus profondeurs de son être et il a fait en sorte que de ramener cette tshuva jusqu'à un point qui était extraordinaire. La dernière question qu'on pose, on a demandé comment c'est possible que Rabbi Yehuda Nassi, quand il a lu cette histoire, il a commencé à pleurer. Il aurait dû se réjouir de ça. Pourquoi tu pleures, Rabbi Yehuda Nassi? Rabotai, Rabbi Yehuda Nassi, il a pleuré et il a dit, L'odayam les baletchouva, chez Mekabli Motam, mais là chez Kaoula Mrebi, ça ne suffit pas pour les baletchouva qu'on les reçoit dans le Gan Eden, mais on les appelle Rabbi. Écoutez bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Nous disent les balais Kabbalah, les maîtres de la Kabbalah, ils expliquent quelque chose d'extraordinaire, c'est Rabbi Yaakov Hades qui le ramène dans un chiur, justement de la profondeur du cœur. Il dit que quand il a pleuré, il a atteint une madriga extraordinaire. Et pourquoi il s'appelle Rabbi? Quelqu'un qui s'appelle Rabbi, c'est quelqu'un qui a appris à quelque chose quelqu'un. Et lui, il lui a appris quoi? Il lui a appris que quand bien même quelqu'un il s'est enfoui dans les profondeurs de la Avera, il pourra toujours sortir si jamais il arrive à avoir la même tristesse, le même tsar, le même remords, le même regret qu'il a eu de la jouissance. Alors quand il a vu cette chose-là, hein, il a pleuré lui aussi parce qu'il s'est dit, regarde, avec les larmes, la tshuva qu'il a réussi à faire, comment elle est puissante et comment elle est grande, il a voulu imiter son comportement. Et c'est marqué, nos commentateurs nous disent quelque chose d'extraordinaire. Parfois, on a des neshamot qui sont petites. Si jamais toi, tu veux ressembler à un tzaddik, tu veux ressembler à cette grande sommité, tu t'inspires de son comportement et tu veux faire en sorte d'étudier des massines dans la Gemara pour lui ressembler, et tu essaies toute ta vie de vouloir ressembler au Chavetz Chaim, à la Vachalom, que c'est Saïloula ce soir, que c'est Bisruto et Agen Badeno qui libère la Geoula Shelema pour le Ham Israël, Bezrat Hashem Yitbarach. Si jamais toi, tu veux ressembler au Chavetz Chaim et tu te bats de toute ta force, et bien sache qu'une mitzot de la neshama du Chavetz Chaim, elle peut revenir à l'intérieur de toi. Une étincelle de sa âme, elle peut revenir en toi et toi tu peux avoir des forces surnaturelles pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui est arrivé à Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, il a vu celui-là, Eliezer ben Dodaya, comment il a pleuré, comment il a atteint une madriga tellement puissante. Il a commencé à pleurer, il a voulu imiter son comportement. Et regardez ce que Rabbi Yehuda Nassi dit, c'est quelque chose d'incroyable. J'espère que vous comprenez bien ça, mais c'est quelque chose, moi quand je l'ai entendu, je voulais me rouler par terre tellement j'étais heureux. C'est merveilleux. Le Dayam la Baletchouva chez Mekabli Motav la chez Karoula Mrebi. Ça ne suffit pas pour les Baletchouva qu'on les reçoit au Gan Eden, mais on les appelle Rabbi. Ça veut dire quoi on les appelle Rabbi? On les appelle Rabbi Yehuda Nassi. Ça veut dire que Eliezer ben Dodaya, il s'est réincarné dans Rabbi Yehuda Hanassi, parce que Rabbi Yehuda Hanassi, il a pleuré, il a hérité d'une étincelle de la Neshama de Rabbi Eliezer ben Nourdaya, parce qu'il a voulu lui ressembler, c'est quelque chose d'incroyable. Et pourquoi il était en train de pleurer? Il s'est dit, regarde comment c'est merveilleux, regarde comment c'est incroyable. Rabbi Yehuda Hanassi, Rabotai, avant de quitter le monde, Gmar Damaseret, Ktuvot, Davkouf, Dalet, je crois, ou Kouvav, à la page 104 ou 106, elle dit là-bas quelque chose d'incroyable. Il a mis ses 10 doigts vers le ciel, il a dit, mais dis, Malay, Shamaim, Varetz, me sont témoins le ciel et la terre que toute ma vie, je n'ai jamais été né du Olamazé, Afilou, Bezbak, Tana, j'ai jamais profité, joui du monde, ne serait-ce qu'avec un doigt. Celui-là, là, ce Ma'boul, qui a fait toute la vérote du monde, il a réussi à se réincarner et à s'élever au rang de celui qui n'a jamais fauté dans sa vie et qui n'a jamais joui de ce monde-là. Par ce route de quoi, Rabotaï? Par le sprout du Omek Alev, de la profondeur et de la puissance des tfilotes. Rabotaï, on va arriver à Kippour, on va arriver à Rosh Hashanah dans ces jours-là. Il faut prier du plus profond de notre cœur, il faut arrêter de parler à notre Patach Eliyahu, il faut parler avec Hashem Yitbarach, sentir qu'on se donne à lui, à Nil et Dodiv et Dodili, à Kadosh Baruch Hu, je suis à toi et toi tu es à moi, je me donne complètement à toi, je m'abandonne complètement à moi, j'ai plus de frontières, j'ai plus de distance, j'ai plus de rien du tout, j'ai plus de limites avec toi. J'ai plus de pudeur, je me lance complètement, je suis entre les mains d'Hashem Yitbarach. Rabotai, c'est ça, Miomek Alev. C'est ça ce qui peut nous faire être massig, atteindre des degrés dans la tchouva d'une chose extraordinaire, qu'on peut s'élever à des madrigotes incroyables, qu'on peut recevoir des neshamot de tzadikim, de gdoshim et de torim qui viennent nous renforcer dans notre avodat Hashem, qui viennent nous permettre de faire venir et grandir des enfants de tzadikim dans la Torah. Et je terminerai sur une histoire. Vous savez, c'est marqué dans la Médina de Ruth. Il y avait Ruth, elle avait deux filles qui s'appelaient Naomi et Orpa. C'est ça? C'est Naomi qui avait deux filles qui s'appelaient. C'est ça, non? J'ai bien dit. Ouais, elle avait deux belles filles. Ruth, elle avait deux filles. Elle avait deux belles filles, elles s'appelaient Naomi et Orpa. Ils se sont mariés, tout ça, avec les. Hein? Ah voilà, tu vois, je savais bien que j'avais fait une tactique qui était mauvaise ici. Je vais revoir la stratégie administrative. Alors Naomi, elle avait deux filles. Elle avait une qui s'appelait Ruth et l'autre qui s'appelait Orpa. Et on sait très bien ce qui s'est passé. Ils sont venus avec elle dans le désert et ça parce qu'il y avait la famine. Ils avaient Avimelech, je crois. Il s'appelait comment il s'appelait le mari? Je vois qu'il y en a qui connaissent bien le Tanakh ici, alors je vais profiter de leur connaissance. Comment il s'appelait le mari? Pour appeler. Hein? Elimelech, ça s'appelait, c'est ça. Parce que parfois je deviens ma boule, alors j'oublie tous les noms. Alors. Je voulais vérifier quand même que je n'étais pas devenu fou. Elimelech, il est venu, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait la famine. Et comme ils étaient très très riches, ils n'ont pas voulu faire la tzedaka et tout ça, donc ils se sont enfuis là-bas et tout ça. C'était le début de leur fin, comme on dit chez nous. Ils sont venus, les maris sont tous morts. Peut-être par le honnage qu'ils ont eu cette avéra. Et à ce moment-là, ils ont entendu qu'il n'y avait plus de famine, donc elle a voulu retourner en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu suivre leur belle-mère. Ils ont voulu aller avec Naomi et tout ça pour pouvoir aller avec elle. Naomi, elle leur a dit, mes enfants, il dit, moi, je suis vieille, qu'est-ce que vous avez de moi? Restez ici, vous allez reconstruire votre vie, vous allez reconstruire votre famille et ça. Là-bas, il n'y a pas de quoi reconstruire. Ici, on peut reconstruire, restez là tranquille et tout ça. Moi, je ne peux pas vous donner d'enfants parce qu'il va falloir que vous attendiez longtemps, de toute façon. Si jamais je commence à vous donner des fils, moi, parce que vous m'aimez tout ça, mais je ne pourrais peut-être pas avoir des enfants parce que ça va être dans très longtemps et tout ça. Donc, vous n'avez rien de moi. Elles ont commencé à pleurer toutes les deux. Elles ont pleuré toutes les deux. Pourtant, on voit que Ruth, elle lui a dit, moi je reste avec elle, elle est partie avec elle. Et Orpa, elle lui a pleuré aussi, elle est partie. Comment c'est possible? Les deux, ils pleurent. Et qu'est-ce qui est descendu? L'autre, elle a eu Goliath, et l'autre, elle a eu le Melech HaMashiach. Boaz, il y a eu toutes les affaires avec Boaz et tout ça, ils ont eu le Melech HaMashiach. C'est quelque chose d'incroyable que ça descende de Ruth. Comment c'est possible que, un, il amène Goliath, et elle s'est pervertie, elle a eu des relations interdites avec des milliers de personnes cette même soirée où elle s'est séparée de sa belle-mère, qui était une sadéquette et qui était le symbole de la Torah. Et l'autre, elle s'est séparée aussi d'elle, elle est restée avec elle et elle a eu le Melech HaMashiach. Mais pourtant, les deux, ils sont en train de pleurer. Les deux, ils sont en train d'être Betsar Gadol. Rav Yamin de Ledano, un de mes maîtres, il m'a expliqué quelque chose d'extraordinaire sur ce passage. Il dit, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux-là? C'est la phrase que Ruth, elle a dit à sa belle-mère. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Rakamavet, il paraît béni ou bénécha. Que la mort ne pourra nous séparer. Ça veut dire que rien ne pourra nous séparer si ce n'est la mort. Ça veut dire quoi cette phrase? L'autre aussi, elle aimait sa belle-mère. L'autre aussi, elle était contente de tout ça. Elle était bien avec elle et tout ça. Mais l'autre, elle lui a dit, si jamais je me sépare de toi, je me sépare de la Torah. Si jamais je me sépare de la Torah, je me sépare de la vie. Donc il a dit, si jamais je me sépare de toi, c'est comme si je suis mouré. Donc je partirai. Je suis prêt à renoncer à refaire un foyer, ça ne m'intéresse pas. Je préfère mourir dans la vérité que de vivre dans le mensonge. L'autre, Elle pensait que la Torah c'était en option. Puisqu'elle pensait que la Torah c'était en option, et bien elle en voit ce qu'elle est devenue. Rabota est quelqu'un qui veut faire tchouva. Il doit savoir une chose, c'est que la Torah c'est notre vie. C'est pas une option, c'est quelque chose qui conditionne toute notre existence. Tu dois sentir que sans la Torah c'est la mort. Si tu sens ça, alors tu ne pourras jamais te séparer de la Torah avec tout ça. Mais si tu te dis, ouais, la Torah c'est bien, tiens, on peut jongler entre les deux mondes, on peut faire des choses et tout ça. Dis, regardez, les deux chemins ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Quelqu'un qui prend profondément conscience que sans la Torah il meurt, il est prêt à tout abandonner, il est prêt à mourir pour vivre dans la vérité. Ce que Eliezer ben Dourdaïa il a fait, ce que Ruth elle a fait, c'est des gens qui sont arrivés à des madrigotes extraordinaires. On est prêt à mourir al Kiddush Hashem, à rendre notre neshama pour sanctifier le nom de Dieu. Mais nous on est prêt aussi à vivre al Kiddush Hashem. C'est encore beaucoup plus difficile que de mourir al Kiddush Hashem. Vivre al Kiddush Hashem, c'est faire en sorte d'être un exemple, d'être heureux et d'être sa mère dans notre avodat Hashem, de faire en sorte de nous renforcer, de servir à Kadosh Baruch Hu du plus profond de nous-mêmes. Et on montre à tous nos frères qui sont éloignés, quand ils voient la joie qu'on a de faire la avodat Hashem, d'avoir des enfants qui vont dans le Derech HaTorah. Avodat, c'est la plus grande mitzvah qui soit. Pourquoi? Parce que les gens ils disent, regardez comment ils sont heureux ceux-là, ils font la Torah, ils font les mitzvot. Nous aussi on va prendre ce mode de vie. Nous aussi on va prendre ce guide du bonheur. C'est la chose la plus extraordinaire parce qu'on peut ramener les frères du Ham Israël. Tous ces gens qui n'ont pas trouvé de sens à leur vie, tous ces gens qui n'ont pas eu. Si quelqu'un il est prêt à voir que sans la Torah il ne peut pas vivre, alors il sera un exemple et il ramènera les gens du monde entier. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait le scout et qu'on ait le mérite de faire en sorte, comme ce Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, qu'est-ce que c'était sa grandeur, c'est sa décision. Rabbi, la tchouva, c'est une question de décision. Il faut comprendre des ahlatot, des décisions. C'est tout. Tu prends une décision et tu t'y tiens. Comme Paltiel ben Laïch, il a planté l'épée dans son lit. Pourquoi il a fait ça? Il savait très bien qu'il n'avait pas le droit d'aller avec cette femme-là. C'était Bathsheba, je crois, non? Bathsheba, il devait avoir des relations avec Bathsheba, Paltiel ben Laïch, alors qu'elle lui était interdite et tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une épée, il a dit, si jamais je passe d'un côté, je vais mourir, et si jamais elle passe d'un côté. Il dit, pourquoi tu fais ça? Parce que tu vas montrer et instrumentaliser la décision que tu as prise, tu la montres concrètement, tu l'appliques concrètement, tu fais la chose pour montrer que tu as pris cette décision. La même façon, Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, comment il a réussi à redevenir Rabbi Eliezer ben Dourdaïa? Il a décidé de faire tchouva. Cette décision, Rabota, il est entre nos mains à tous. Si Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on a pris cette décision, c'est sûr qu'on sera scellé dans le livre de la vie. Alors qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, nous, et tous les enfants du Ham Israël, de se renforcer, d'amitradek dans la Torah, dans les mitzvot, dans les massim tovim. Vous allez me laisser vos mails, parce que chaque jour j'écris une petite pensée, comme ça on reste en contact et tout ça. Si jamais vous voulez le matériel pédagogique, je vous le fournis aussi. Et Bezrat Hashem, c'est sûr qu'on va se revoir. Akadosh Baruch Hu, il s'amérachem, surtout le Ham Israël, qu'on arrête les xérot, que Bezrat Hashem, on soit zouché de revenir bitchouva chez les mains, et qu'on ait le Beth Amigdash, Bezrat Hashem.